Chapitre 19. C'est, hélas, la commune tentation humaine de faire des coupables avec des malheureux, et Mélie Reinette l'éprouva. L'imprudence qu'elle avait commise en recevant chez elle Pierre Noëlé, leur promenade du fief Sauvin à la Genivière, le courroux du métayer, l'évanouissement inexpliqué de Jacques, furent racontés et commentés sous chaque toit du fief Sauvin. Sans qu'elle pût se défendre, sans qu'elle sût même nettement toutes les calomnies répandues contre elle, elle se sentit enveloppée d'une curiosité insultante et railleuse. Plusieurs matrones du bourg crièrent au scandale et lui fermèrent leurs portes. Des filles de son âge, Tisserand de Commelles et ses anciennes amies, s'écartèrent avec ostentation. En quelques jours, après l'abandon de Pierre, Mélie Reinette connut l'abandon du monde. L'épreuve lui fut cruelle et surtout l'attitude des Noëlé. Quand elle les rencontrait, il ne semblait pas même la voir. Il passait, droit, triste, le métayer sans lever son chapeau, la métayère et ses filles sans un signe de reconnaissance à cet enfant qui, la veille encore, faisait presque partie de la Genivière. Complice du fils rebelle et ingrat, elle avait, comme lui, perdu sa place au foyer. Elle n'était pas même une étrangère. L'ancienne amitié qu'il avait tant protégée et soutenue s'était tournée contre elle et la livrait, par son silence même, aux mauvais propos du grand nombre. Il en coûtait à Mélie Reinette d'interroger maintenant sur la Genivière des indifférents et de savoir par eux des nouvelles qu'elle eût données autrefois. Elle apprenait chaque jour que l'état de Jacques s'aggravait. Elle aurait voulu courir, s'asseoir au chevet du malade, soigner avec Antoinette et Marie le meilleur ami de Pierre. Mais ce dévouement même lui était défendu. Un matin, comme elle sortait de l'église et rentrait chez elle, elle croisa l'abbé Heurtebise qui l'arrêta. « Mélie, dit-il, j'en reviens. Il ne passera pas la journée. »« Monsieur le curé, répondit-elle, je ne peux pas y aller, n'est-ce pas ?» L'abbé branla la tête. La tisserande reprit son chemin, tout humiliée et en larmes. Et quand elle fut dans son jardin, elle regarda, une heure durant, les chênes lointains de la Genivière. Dans la chambre d'où l'abbé Heurtebise venait de sortir, sur le lit où couchaient d'habitude le métayer et sa femme, Jacques se mourait en effet. Son entrevue avec le prêtre lui avait donné un moment de calme et je ne sais quelle grandeur. Il avait dû comprendre quelque chose de l'au-delà de la vie, car ses traits s'étaient illuminés d'une expression noble et comme transfigurée. Qu'est-ce qu'il fixait ainsi du côté de la fenêtre ouverte? Ses sœurs agenouillées, sa mère accroupie de lassitude et qui lui tenait toujours la main? Les brins de vigne qui descendaient de la treille, dans la lumière bleue de la baie, ou les rideaux blancs que le vent agitait avec un frémissement d'oiseaux qui s'envolent? Le petit arbre en face, où pendait encore un reste de cerf-volant, débris des jours lointains? Non, ses regards allaient bien par-delà. Il voyait la mort, et il n'en avait plus peur, car il souriait. La paix, une espérance déjà certaine, une joie où l'âme était tout, quelque chose de détaché et de supérieur à la vie, voilà ce qui se lisait sur ce visage, où la mort écrivait aussi « J'arrive ». Une oppression terrible le prit, et, dans l'angoisse, il retrouva la force de se redresser encore sur l'oreiller. Sa mère était déjà debout, qui le soutenait, et le recoucha doucement quand l'accès fut calmé. Seulement, il avait fermé les yeux. Il appartenait de nouveau tout entier à la souffrance. Et les heures coulèrent lentes, lentes, au bruit de cette respiration qui comptait les secondes et s'obstruait de plus en plus. Des voisins, quelques gens du bourg, s'étaient joints aux Noëlé. Il y avait bien 15 personnes dans la chambre, toutes agenouillées autour du lit qui les dominait comme un autel, épiant avec une pitié mêlée d'attendrissements égoïstes et de retours sur elle-même la commune et souveraine maîtresse des hommes qui venaient. Quand l'une d'elles se levait, les autres la suivaient du regard, et il y avait un griotis de rosaires remués dans le silence de la chambre. Parfois, Julien Noëlé, immobile comme une statue de granit gris, à la tête du lit, ouvrait un vieux livre à la couverture gondolée, le même qu'il ouvrait chaque soir depuis 40 ans, et, sans prévenir, d'une voix un peu moins forte seulement que de coutume, il lisait un psaume ou une litanie. Un murmure de voix de tous les âges lui répondait. Puis, subitement, quelqu'une de ces voix s'arrêtait, coupée par les larmes. Deux ou trois seulement finissaient la réponse qu'elles avaient toutes commencée. Vers 4 heures, Jacques souleva sa main, toute froide, qu'il avait posée sur le drap le long de son corps. En même temps, ses paupières s'entr'ouvrirent et son regard, d'une anxiété profonde, sembla chercher et demander, un regard d'outre-tombe jeté à travers des espaces infinis. « Que veux-tu, mon Jacques ?» dit la mère. Il entendit sans doute. Ses lèvres s'agitèrent et dirent « Mon frère, l'abbé, où est-il ?» Jacques respira une dernière fois. Puis, brusquement, le souffle s'arrêta. La poitrine, tendue dans un suprême effort, souleva le drap. L'étincelle de vie disparut du visage et une pâleur bleue courut de son front à ses pieds. Alors, les voisines et les sœurs de Jacques avec elles se mirent à pleurer tout haut et à pousser des cris. Leurs voix aiguës, mêlées, se répandirent par la fenêtre dans la tombée tranquille du jour et annoncèrent au loin que Jacques était mort, tandis que le père et la mère, recueillis, immobiles, regardaient reparaître et grandir sur le visage de leur fils l'expression surhumaine qu'il avait eue le matin.